Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans votre journal des idées ce matin à 6h40, vous revenez sur l'utilisation de l'article 49.3 que nous avons évoqué. Cela suscite des réactions.
Et oui, à commencer par les organisations syndicales. Qu'on ne puisse pas, sur un sujet aussi fondamental, mener le débat à terme est désastreux pour la démocratie, a déclaré Laurent Berger au Parisien dimanche. Le secrétaire général de la CFDT se dit inquiet sur le contenu du texte, car selon lui, ce 49.3 escamote le débat et les mesures de justice sociale réclamée depuis des mois par sa confédération n'ont jusqu'à présent pas été prises en compte. D'autres réactions reviennent dans le monde.fr sur la raison invoquée par le gouvernement, mettre un terme à l'obstruction systématique de l'opposition. Pour François Auméril, président de la CFE-CGC, la première obstruction au débat parlementaire a commencé à l'instant même où le gouvernement a décidé de faire une procédure accélérée sur un texte comme ça. Yves Verrier, numéro 1 de FO, estime que l'exécutif pouvait jouer l'apaisement, d'autant plus que sa réforme des retraites porte sur une composante majeure de notre contrat social. Côté patronal, Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité, artisans et commerçants, souligne que la majorité est assez large pour voter le texte. C'est juste une question de timing. Pour Maxime Tandonnet, dans le Figaro Vox, le retour au 49.3 est de moins en moins justifiable. Depuis l'adoption du quinquennat en 2000, l'Assemblée nationale, élue systématiquement dans la foulée de l'élection présidentielle, a perdu l'essentiel de son autorité, de sa souveraineté. Elle se présente comme une annexe de l'Élysée et de fait lui est largement soumise. Il rappelle que l'article 49.3 fut introduit dans la Constitution de 1958 en réaction contre les régimes de la 3e et de la 4e République dominés par une Assemblée toute puissante qui faisait et défaisait les gouvernements et pour mettre fin au régime des partis qui interdisait à la France d'être gouvernée dans la durée. Jusqu'à présent, il a été utilisé lorsque le pouvoir ne disposait pas d'une majorité absolue au Parlement ou lorsque cette majorité était divisée, comme entre 2014 et 2017, par Manuel Valls pour les lois de libéralisation de l'économie. Or, la situation est totalement différente aujourd'hui, comme le souligne Natacha Polony dans Marianne. La République En Marche n'a pas jugé bon d'utiliser jusqu'à présent les outils qui lui auraient permis de contourner l'obstruction des députés insoumis, tant législatif programmé ou vote bloqué. Des dispositions pourtant défendues par le député LREM du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Wasserman, dans les pages idées de Libération. En particulier le temps législatif programmé, il enrichit le débat, dit-il, en ce qu'il permet aux divers groupes de gérer leur temps en le focalisant sur les priorités politiques qu'ils veulent défendre et il réduit drastiquement le risque d'obstruction puisqu'il fixe l'enveloppe totale de temps que chaque groupe peut utiliser. Rattrapé par l'actualité et l'annonce du gouvernement, le député estimait notamment nécessaire de reconnaître dans les textes la notion d'obstruction parlementaire, jugeant que nous arrivons probablement au bout d'un modèle démocratique qu'il faut repenser en profondeur. Notre Parlement doit être doté des prérogatives et des outils qui lui permettront d'accomplir sa mission de façon plus efficace, plus rationnelle et plus démocratique. Face à une crise de légitimité, la tâche primordiale est de rouvrir le mot démocratie et de casser l'assimilation entre démocratie et élection, affirme Samuel Hayat dans l'hebdomadaire Le 1, qui pose cette semaine la question « Comment augmenter la démocratie ?» Pour le politiste, les mouvements sociaux actuels et la défiance envers la classe politique, et ce partout dans le monde, ont pour cause une persistance de la conception traditionnelle d'un gouvernement représentatif comme synonyme de la démocratie, ce qui arrange d'ailleurs bien certains régimes autoritaires qui se qualifient de démocratie sous prétexte qu'ils organisent des élections libres comme la Russie ou l'Iran. Pardon. Or, il est démocratique. Qu'entre deux élections, le peuple ait un droit de regard sur ce que font les représentants, de manière à établir une démocratie réelle, à la fois politique, reposant sur la participation de tous, et sociale, améliorant le sort des dominés, des pauvres. Ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, il y a maintenant plusieurs décennies, peinent encore à trouver leur place dans nos démocraties. Aujourd'hui, les mouvements féministes, les mouvements pour le climat sont des organisations de plus en plus massives et qui ne cherchent pas de manière prioritaire à prendre le pouvoir. C'est pourtant là que se joue la vitalité démocratique.